VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président kényan aux États-Unis d'ici la fin du mois, Donald Trump, va recevoir à la Maison-Blanche Uhuru Kenyatta, qui deviendra ainsi le deuxième dirigeant d'Afrique noire à être reçu par le président américain après le Nigérian Muhammadu Buhari. La visite de M. Kenyatta est prévue le 27 août, a précisé la présidence américaine dans un communiqué. En République démocratique du Congo, toujours pas de candidat de la coalition au pouvoir à moins de 48 heures de la clôture par la commission électorale du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre prochain. Arrivé en fin de mandat depuis décembre 2016, le président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter, ne s'est toujours pas désigné un dauphin. C'est dans ce contexte que le président de la Commission de l'Union africaine et l'Union européenne, tout comme les évêques catholiques, appellent de leur côté au respect de la Constitution, des droits et des libertés de tous les Congolais et à l'application des mesures de décrispation du climat politique prévu par l'accord du 31 décembre 2016. Les détails de tout ceci avec Thierry Kaboudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Quatrième à déposer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain, l'opposant Vital Kamerhe a rejoint Seth Kikuni, Jean-Pierre Bemba et Alain Daniel Tshiekomba. Cette liste va être complétée les 48 prochaines heures par Félix Tshisekedi, dont le parti a annoncé le dépôt du dossier ce mardi. Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou qui, eux, déposent mercredi. Ensemble pour le changement, la plateforme électorale de Moïse Katumbi a également annoncé le dépôt de la candidature de son leader bloqué en Zambie qui n'a toujours pas pu accéder au territoire congolais par la frontière de Kasumbalesa. Par contre, pas de nouvelles du candidat du Front commun pour le Congo, la nouvelle plateforme électorale de Joseph Kabila. Le président sortant, dont le dauphin reste attendu, a reçu la semaine dernière à tous les partis regroupement politique du FCC à qui il avait demandé de lui proposer chacun 4 noms des candidats présidentiables. Interrogé à ce sujet, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, s'est contenté de dire que le Front commun pour le Congo déposera dans le délai le dossier de son candidat président de la République. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Mali, la Cour constitutionnelle composée de 9 juges doit proclamer officiellement demain mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour. Le second tour qui est prévu, vous le savez, le 12 août. Par ailleurs, 18 candidats ont dénoncé hier un hold-up électoral par le camp du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour avec 41,42% des voix, selon les résultats officiels provisoires annoncés jeudi dernier. Les 18 ont aussi appelé à une grande manifestation ce mardi à partir de 16h temps universel, et c'est à Bamako, la capitale. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, devrait sortir de prison prochainement, bénéficiant d'une amnistie du président Alassane Ouattara. Cette amnistie a été annoncée lundi par M. Ouattara lui-même dans son discours à la Nation à l'occasion des 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Abidjan, notre correspondant Ibrahim Tunkara.
Simone Gbagbo bientôt libre, c'est l'annonce faite par le président Alassane Ouattara dans son discours à la Nation à l'occasion des 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance.
Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Figure notamment Madame Simone Eyile Gbagbo, Monsieur Lida Kwasi, Assoua Adou, Suleiman Kamarake, Guy Soul to Soul. Il s'agit là d'une mesure de clémence. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne sombre plus jamais dans la violence.
Le président ivoirien s'est voulu rassembleur dans son discours, appelant à plusieurs reprises ses compatriotes au pardon et à l'unité. Alassane Ouattara s'est également prononcé sur la polémique relative à la commission électorale indépendante, une commission décriée par l'opposition qui exige sa recomposition. Le président Ouattara dit avoir instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de cette commission, selon lui le fruit d'un consensus au sein de la classe politique, une classe politique qui dans son ensemble salue ce discours du chef de l'État à la Nation, Georges Ibrahim Tunkara, pour VOA Afrique, Abidjan.
Le Cameroun sera-t-il prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019? Pour le savoir, direction maintenant Garoua, une ville située dans le nord et qui va abriter l'une des pôles de la compétition. Mais pour cela, Garoua doit se doter d'un nouvel hôpital régional de route et surtout d'infrastructures sportives conformes aux exigences de la Confédération africaine de football. Reportage sur place au Cameroun, Emmanuel Julentap.
Sur l'ensemble des sites, impossible de marquer un pas sans tomber sur les échafaudages, des machines à tourner le béton, des camions et autres engins lourds. Garoua, c'est aussi ces maux de terre répandus le long de la voie publique et qui annoncent le passage imminent du goudron par endroits. Côté infrastructure sportive et hôtelière, les grands travaux ont été confiés à l'entreprise Prime Potomac. Yannick Azehetio supervise la construction d'un stade d'entraînement de 1050 places au quartier Ndjoumassi à Garoua.
Tous les ouvrages, de façon générale, le gros œuvre est terminé. Le second œuvre est enclenché. Normalement, d'ici la fin de cette semaine, la couche de terre végétale doit être partout. Tout ce qui reste à faire, c'est de mettre le gazon.
La fin du mois de septembre prochain est annoncée comme délai de livraison de 4 terrains d'entraînement, d'un hôtel 4 étoiles et d'un autre hôtel en cours de rénovation. Achille Tchamdia Tabet, chef des travaux de l'hôtel des sports de Garoua, le futur hôtel 4 étoiles.
Les travaux vont bon train et dans un rythme soutenu. Nous sommes pratiquement à la fin du gros œuvre techniquement de l'ossature porteur du bâtiment. Donc d'ici peu, si vous étiez venu, je vais dire une semaine plus tard, vous deviez voir qu'on a commencé aussi les murs de remplissage. Nous comptons livrer dans les délais.
La grève des ouvriers sur certains chantiers en juillet dernier, ajoutée à un mouvement d'humeur de fournisseurs, a laissé planer des doutes sur la capacité de l'entreprise Prime Potomac à tenir ses engagements. Hamadou Moussa, directeur régional de Prime Potomac pour le Nord.
Tout le monde a été payé et l'inquiétude est revenue. Le gouvernement a répondu et la dernière visite du Premier ministre avec lui, votre ministre a facilité la tâche à tous les niveaux. Et si vous voyez l'évolution de nos chantiers sont au-delà de ce qui a attendu. Donc on a été aidé par les fournisseurs qui aujourd'hui sont partiellement payés et les restes.
Reste que cette tension sociale a marqué les esprits. Impossible de faire parler un ouvrier de Prime Potomac sur ses conditions de travail et de vie. Les populations, quant à elles, semblent se réjouir de la transformation que va connaître la ville de Garoua dès la fin des travaux. Ousmaïla Abba, commerçant à Garoua.
Le bossage du terrain, quand même, je suis très content. Puisque c'est presque fini, le gros travail quand même est fini. Et seulement maintenant, les petits travaux seulement. Avec 5 terrains, avec 2 à 3 hôtels quand même, la ville quand même sera belle quand même.
À Garoua, l'on croise désormais les doigts pour que la CAN 2019 ne soit pas retirée au Cameroun. Emmanuel Jumtap, la Garoua, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les sanctions américaines contre l'Iran sont entrées en vigueur depuis 4h du matin, marquant une nouvelle escalade entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a rejeté l'appel à dialoguer des États-Unis. Abdourahman Dia.
Le président iranien Hassan Rouhani a jugé insensé cet appel lancé par les États-Unis au moment où des sanctions économiques sont appliquées. Associer des négociations à des sanctions, c'est insensé. Ils imposent des sanctions aux enfants iraniens, aux malades et à la nation, a lancé Rouhani lors d'un entretien télévisé. Il a accusé les États-Unis de vouloir mener une guerre psychologique contre son pays pour, dit-il, provoquer des dissensions parmi les Iraniens. La première vague de sanctions vise à bloquer les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des sanctions sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Et à partir du mois de novembre, les secteurs clés du gaz et du pétrole seront particulièrement visés. La Commission européenne a indiqué qu'elle va activer dès ce matin la loi dite de blocage. Cette législation, qui date de 1996 pour contourner les sanctions américaines sur Cuba, la Libye et déjà l'Iran, interdit aux entreprises européennes de se conformer aux effets des sanctions américaines en dehors du territoire des États-Unis.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier un texte rédigé par les États-Unis visant à s'assurer que les sévères sanctions à l'encontre de la Corée du Nord n'entravent pas les livraisons de l'aide humanitaire à ce pays reclus. En Corée du Nord, 10 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont sous-alimentées, selon des responsables de l'ONU, relatant une chute dans la production de la nourriture l'année dernière. Les résolutions des Nations Unies précisent bien que les sanctions ne doivent pas affecter l'aide humanitaire, mais les organisations estiment que le commerce strict et les mesures bancaires créent des obstacles bureaucratiques et ralentissent la circulation des approvisionnements vitaux. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque tout à l'heure et bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.